Et nous attaquons tout de suite avec l'accueil de Patricia. Bonsoir Patricia.
Bonsoir Catherine.
Alors, je vous écoute Patricia. De quoi nous parlez-vous ?
Alors, je vais vous parler, je suis en train de me retrouver parce que ça fait des années que... Enfin, ça fait 8 ans que mon mari est décédé. Oui. Et depuis, je me cherche.
D'accord.
En permanence.
Mais vous êtes en train de vous retrouver ou vous peinez à vous retrouver, justement ?
Non, je peine à me retrouver.
D'accord. Alors, vous avez vécu, alors remettons un peu peut-être le contexte de votre relation de couple. Vous avez vécu combien d'années avec votre mari ?
2 ans.
2 ans, d'accord. Donc, avant lui, vous étiez toute seule ?
Oui, j'étais divorcée.
Oui. Et vous êtes restée longtemps seule avant de rencontrer votre mari ?
Oui.
Votre second mari ?
Oui.
D'accord. Et là, vous y arriviez ou vous étiez aussi dans la peine de la séparation ? Est-ce que c'est la notion de deuil ou c'était...
Non. Le divorce avec le père de ma fille, c'était un choix que j'avais assumé.
C'était vous qui étiez à l'origine de la séparation ?
Oui.
D'accord.
Parce que, voilà. Et c'est une relation qui m'a apporté plus rien en tant que femme.
Oui.
Donc, on a divorcé. Après, le père de ma fille, nous avons toujours une relation très amicale.
D'accord.
Et quand j'ai rencontré mon second mari,
oui.
Il avait un cancer. Donc, dès le départ, je le savais.
D'accord.
Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin.
Et ce cancer, il était, à ce moment-là, vous saviez que c'était incurable et vous l'avez accompagné parce que vous êtes tombée amoureuse de cet homme ? Ou est-ce que vous avez pensé que vous pouviez gagner sur la maladie l'un et l'autre ?
Lui, il espérait gagner. Moi, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas.
Mmh. Donc, c'est vraiment avec quand même l'idée que les jours étaient comptés, que vous êtes rentrée dans cette relation, que vous l'avez épousée et,
oui.
Et que vous l'avez accompagnée jusqu'à cette triste fin.
Mmh.
Et dans ce temps-là, du coup, votre histoire est une histoire toute courte, puisqu'elle n'a duré que 2 ans.
Oui.
Et donc, elle n'a pas eu le temps de déchanter malgré la maladie. Il n'y a pas eu. Enfin, vous avez eu. Comment s'est faite votre relation ? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où il a dû être en souffrance physique, bien sûr, mais en souffrance psychique,
oui,
peut-être en colère.
La souffrance physique. Non, colère, il n'a jamais été en colère.
D'accord.
La souffrance physique, c'était. Il faisait de la chimio tous les 15 jours.
Oui.
Et quand il rentrait de la chimio, c'est vrai qu'il était épuisé.
Bien sûr, bien sûr.
Et je n'ai jamais entendu dire « j'ai mal, je souffre », jamais.
Mm-hmm.
Par contre, les 3 dernières semaines qui ont suivi son décès, oui, là par contre, j'ai dû transformer l'appartement... En lido, en chambre
médicalisée, bien sûr.
Mais non, c'était quelqu'un de très volontaire.
Et alors, ce chagrin qui est le vôtre, qu'on peut évidemment tellement comprendre, Patricia, donc qui dure maintenant depuis 8 ans, comment ces années, qu'est-ce que vous en avez fait de ces années ? Qu'est-ce que vous travaillez ? Vous avez des enfants ?
Je travaille en plus dans un EHPAD.
Oui. Ah oui, donc vous êtes en plus habitué à accompagner les gens.
Oui. J'ai une fille, je suis mamie.
Oui.
Mais je ne sais pas comment l'exprimer. C'est pas que je m'interdis de revivre quelque chose, c'est que non, ça me fait... J'essaie de sortir, de bouger, mais non. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me donne ce déclic.
Et pourtant, vous me disiez, vous avez déjà vécu seule et
oui.
Vous aviez pu être heureuse en vivant seule ou vous étiez quand même dans une difficulté à trouver un point d'appui de joie. Est-ce que vous avez besoin d'être en couple, d'être avec quelqu'un pour pouvoir porter votre vie, accompagner et tendre vers des projets ?
Mais je me dis que voilà, j'ai 59 ans.
Mmh.
J'ai pas envie de terminer seule, quoi.
Ah mais bien sûr, vous êtes toute jeune. Vous avez des tas de choses encore à vivre et à partager, bien sûr. Pour autant, en attendant d'être dans la rencontre ou dans la vie de couple, vous avez aussi une opportunité de cette jeunesse, vous permet aussi de faire des tas de choses pour rendre votre vie douce, belle, et du coup être assez désirable, parce que c'est parce qu'on est pétillant de vie aussi qu'on est désirable par les autres ou vu par les autres.
Je suis quelqu'un de très ouverte, et j'ai des amis, mais ça s'arrête là. Puis bon, voilà, j'habite dans une région où il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien.
Oui. Donc vous vous sentez un peu enfermé, un peu en boucle sur vous-même, c'est ça?
Inconsciemment, peut-être, oui.
Et votre famille, où est-elle? Elle est à proximité de vous?
Ma fille habite à 30 kilomètres.
D'accord.
Et vu mon travail, je la vois tous les 15 jours.
Bien sûr. Et votre vie professionnelle, c'est une vie qui est heureuse ou c'est une vie lourde pour vous?
Non, lourde parce que donc je suis passée en mi-temps thérapeutique vu que j'ai des problèmes de santé, je me suis fracturée la cheville, donc je suis en mi-temps thérapeutique. Et donc, comme les réglementations en EHPAD au niveau des visites sont réglementées, donc je sais quand on est à gérer les visites. Et donc ça fait 36 ans que je travaille en EHPAD et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et je me sens relayée comme le wagon qu'on laisse au bord du chemin de fer.
D'accord. Et parce que vous avez perdu le contact avec les locataires, enfin les personnes qui sont dans l'EHPAD, et c'était important pour vous, c'était un lien social. Et là, vous avez le sentiment d'être dans quelque chose de plus administratif, plus éloigné de tous, de la vie de l'EHPAD, c'est ça?
Oui, parce que certains résidents, je les connais depuis des années. Oui. Et c'est vrai que même eux, ils l'expriment.
Et vous avez quand même la liberté d'aller les voir ou à cause justement de la situation sanitaire, vous devez rester cantonné à votre rôle?
Alors ma liberté d'aller les voir, c'est je finis... la réglementation m'autorise à finir les visites à 18h. Donc je monte à 18h et je vois les résidents pendant une demi-heure.
D'accord. Ce qui est satisfaisant parce qu'ils vous renvoient des choses agréables de vous, le fait que vous leur manquez et vous échangez avec eux. Parce que si vous me dites que vous êtes dans une région où il n'y a pas de restaurant, où il n'y a pas beaucoup d'activités, les liens sociaux sont assez limités, donc c'est important votre vie professionnelle pour ces liens sociaux.
Oui, mais ça fait 36 ans que je fais ce métier, c'est vrai que on ne choisit pas ce métier par hasard.
Non, alors justement ce métier que vous avez choisi qui demande quand même beaucoup de compassion, beaucoup de générosité,
de compréhension.
Absolument. C'est quand même un métier où vous avez passé votre vie à accompagner des gens dans les derniers temps de leur vie. Et là, vous me parlez d'un mari que vous avez rencontré en connaissance de cause dans ce même accompagnement.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Oui, mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Ça, je sais, en termes émotionnels, je parle simplement en termes de structure. C'est-à-dire que vous êtes toujours celle qui reste et les autres disparaissent, comme s'ils vous abandonnaient d'une certaine manière. Ce que je voulais dire, c'est que vous créez des liens. Et vous êtes toujours celle qui voit les autres partir, en quelque sorte. Et je m'interrogeais, est-ce que c'est propre à votre métier, puis le hasard de votre... Est-ce que vous avez déjà connu ça avant? Est-ce que, par exemple, dans votre vie d'enfant, vous avez été dans des relations, vous n'avez pas perdu de parents, vous n'avez pas perdu de proches?
Attendez, alors là, si vous partez sur ce terrain, en 1985, j'ai dû enterrer mon fils. Mort subie du nourrisson.
D'accord. Ça en fait des pertes qui vous laissent sur le bord du chemin.
En octobre 85, j'ai dû dire au revoir à mon papa.
Oui.
Donc oui, inconsciemment, la vie m'a quelque part... je ne sais pas si c'est forgé, c'est...
En tout cas, ça vous...
Quel mot vous dire?
Oui, pardon.
Quel mot vous diriez-vous?
J'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment que on vous dit, on vous quitte, que vous restez sur le bord de la route, comme vous disiez, sur le à côté de la voie de chemin de fer, vous ne montez pas dans le wagon, et que les gens vous quittent et que vous restez seul et vide. Alors quand c'est un bébé, pensez donc, quand on a apporté un bébé et qu'on perd ce bébé, son nourrisson, c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Je crois qu'il n'y a pas plus douloureux. Et puis après, il y a un papa. Et puis alors là, c'est, même si c'est dans l'ordre des choses, ça ne veut pas dire que c'est confortable, même quand on est adulte. Et puis après, il y a un mari. Et votre métier vous y expose également au quotidien, ou en tout cas régulièrement. Ça fait beaucoup de gens que vous voyez partir. Et évidemment, comment se réjouir de la vie, trouver que youpi badaboum, la vie est gaie, qu'on a plein de choses à faire. C'est assez compliqué quand on est lié affectivement à des êtres, de s'accorder le droit d'être heureuse et de rebondir et d'avoir plein de projets quand, eux, la vie s'est arrêtée.
Oui, mais ça, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Le décès de mon fils, j'ai fait le deuil. Le décès de mon papa, j'ai fait le deuil. Pardon. Le décès de mon mari, je fais le deuil. Mmh. Mais malgré ça, comment vous dire, je ne sais pas si je peux arriver à de nouveau avoir une relation avec quelqu'un. Je ne sais pas.
Alors, techniquement, je vous dirais que oui. Bien sûr que vous pouvez arriver. Mais la question est, est-ce que je peux m'autoriser à avoir une nouvelle relation, m'autoriser à rebondir encore et encore après tout ça? Et c'est sûr que le cumul, c'est les deuils vont les...
Honnêtement, je pense que oui. Parce que voilà, ça fait maintenant, ça va faire 8 ans qu'il est décédé. Et puis je me dis, non, c'est pas possible. À 59 ans...
On n'arrête pas de sa vie, on est encore une femme, on a encore envie de plaire, on a encore envie de désirer, on a encore envie de construire, bien sûr.
C'est plus construire et puis pas la sécurité, le mot n'est pas juste. Je ne sais pas comment vous expliquer. 59 ans, avoir quelqu'un avec qui dialoguer, échanger.
Comment vous l'aviez rencontré, votre mari, et où l'aviez-vous rencontré, puisque vous me dites être dans une région assez désertée en termes d'activité?
En fait, c'est une collègue à moi qui m'a invité un soir chez un ami commun. Mmh. Et j'ai rencontré mon mari à cette soirée. Oui. Donc on a échangé et voilà, ça a été...
Le coup de foudre.
Ah oui, exactement, oui. Mmh. Puisqu'on s'est rencontrés en juillet 2011.
Oui.
On s'est mariés en juillet 2012. Mmh. Et il est décédé en août 2013.
C'est bien court tout ça. Et aujourd'hui, pour rencontrer quelqu'un, est-ce que vous savez par quel bout vous y prendre? Est-ce que vous sortez toujours? Ou est-ce que votre tristesse et votre deuil qui se fait peu à peu, mais qui pèse, vous empêche ou vous donne pas envie de sortir?
Non, mon deuil, il ne me pèse pas.
D'accord.
Non, au niveau du deuil de mon mari, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand mon époux a fait son dernier scanner, il m'a dit, il est hors de question que je meure à l'hôpital. Si je meurs, c'est chez moi. Mm-hmm. Donc, je lui dis, oui, OK. Donc, le matin, je me suis présentée à l'hôpital. Le cancérologue, il me dit, vous savez à quoi vous attendez? J'ai dit, écoutez, honnêtement, pas vraiment. Mm-hmm. Mais c'est son choix et je respecte sa volonté.
Mm. Et ça s'est passé. J'ai géré. Est-ce que vous avez... Ça a dû être lourd psychologiquement et physiquement, mais même dans ces moments lourds, on peut être heureux de ces moments que l'on partage et d'être arrivé à aller jusqu'au bout.
J'étais heureuse de l'accompagner jusqu'au bout, oui.
Bien sûr, bien sûr. Vous êtes heureuse et fière d'y être arrivée, de l'avoir...
Fière, non.
Non.
J'ai respecté sa volonté.
D'accord.
Je peux pas dire fière. Pourquoi être fière?
Non, fière dans le sens d'avoir pu être du rendez-vous, de ne pas avoir faibli, parce que c'est lourd. Il y a des moments où on peut avoir...
Ah, mais c'est très lourd. Bien c'est sûr. Très pesant. Mmh.
Quand je disais fière, ce n'est pas une médaille. Hein, ce n'est pas de ça dont je parlais. Ah. C'est simplement d'être heureuse d'y être arrivée.
Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, du tout. Mmh. Mais par contre, je ne sais pas si je pourrais le revivre.
Alors c'est ça peut-être qui vous empêche de rencontrer des gens, c'est la peur de reperdre quelqu'un et d'avoir à nouveau à vous confronter à cette difficulté infinie qui est d'accompagner quelqu'un vers la mort. Est-ce que vous avez l'idée que vous survivez à tout le monde et que il vous faut encore et
Non, non,
encore
non.
et...
Non, je pense pas. Mais non, non, je mets pas ça sur revivre ce que j'ai vécu, non, du tout.
D'accord, parce que c'est
Parce
ce que vous me disiez,
que
vous disiez que vous n'êtes pas sûr d'arriver à le revivre. Donc, ce n'était pas sur revivre la douleur, c'est revivre l'amour. C'est ça dont vous vouliez parler?
non, en fait, je l'ai fait par amour, parce que voilà. Mais après, je peux pas dire, non, je souhaite à personne de vivre ça, parce que c'est des moments épuisants, contraignants. Enfin, voilà, moi-même, j'aurais pas envie de le revivre. Mais si vraiment je rencontre quelqu'un pour qui j'ai des sentiments, qui doit être dans cette situation, me connaissant, je sais que je le ferai.
D'accord. Et alors aujourd'hui, vous avez un sentiment que qu'est-ce qui vous freine dans le fait de rencontrer quelqu'un, puisque vous me dites que malgré la lourdeur de l'histoire, vous avez fait votre deuil, que vous ne voulez pas rester seul, ce qui est très bien, tout à fait légitime. Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que vous avez le sentiment que ce ne sont que des choses, j'allais dire, techniques, à savoir peu de monde, pas savoir où rencontrer quelqu'un parce qu'il y a peu d'endroits, peu d'occasions? Ou est-ce que c'est la difficulté à se l'autoriser, la difficulté j'allais dire, se remettre sur le marché de la relation, avant d'être le marché de l'amour, mais le marché de la relation? Quelle est votre plus grande difficulté? Est-ce que c'est la peur aussi de rencontrer quelqu'un qui vous plaise et qui puisse être fragilisé ou mourir? Voilà, quelle est votre difficulté aujourd'hui?
Non, à ce niveau-là, non, je pense pas. Je pense que c'est plus la confiance que j'ai en moi à pouvoir de nouveau donner de l'amour. Et
C'est-à-dire que vous vous sentiriez sèche d'amour? Il n'y a plus d'amour en vous à donner parce que tout a été pris déjà, tout a été usé?
inconsciemment, il me semble que je suis un peu plus comme ça, quoi.
Pourtant, Patricia,
J'ai tellement donné que je sais plus ce que je pourrais donner, quoi.
pourtant vous avez l'air de me dire que vous avez besoin d'aller voir les résidents de l'EHPAD, que vous leur manquez, qu'ils sont heureux de vous voir. Donc, manifestement, il y a toujours beaucoup à donner en vous. Et qui n'est pas que pour donner. Parce qu'on peut penser que quand on donne à l'autre, bah, l'autre prend, et que du coup, on est de plus en plus vide. Dans la réalité, quand on donne, on se fait du bien aussi, parce qu'on se sent d'abord compétent à donner. On se sent riche de possibilités. Donc, si vous êtes animé de l'élan d'aller voir ces résidences et que vous vous sentez d'abord dans le besoin de leur présence, de l'échange avec eux, et que vous vous sentez dans la compétence et qu'ils vous reconnaissent cette compétence.
Oui, mais moi, au niveau de mon EHPAD, mes résidents, on échange, j'échange énormément avec beaucoup de résidents. C'est un échange
Oui, amical, fraternel,
amical,
bien sûr.
même des fois un peu plus, parce que ben, malheureusement, en EHPAD, il y a des résidents qui sont là depuis des années, donc c'est plus de l'amitié, de la confidence que amicale. Mais ça reste, vous le comparez à un échange d'amour, ça n'a rien à voir.
Oui, non, mais bien sûr. Ce que j'étais en train de dire, Patricia, c'est, je le compare pas. Je dis simplement, quand vous dites, je ne suis pas sûre de pouvoir être en compétence d'aimer à nouveau, comme si j'étais vide, comme si il y avait plus grand-chose. Je vous montrais qu'il y a encore beaucoup de choses, puisque sinon vous le gaspilleriez pas avec des gens moins importants qu'un amoureux, en quelque sorte. Vous voyez, si vous allez naturellement vers les gens, si vous en avez besoin, c'est qu'il y a de la vie en vous, et que cette vie, elle a besoin absolument de s'exprimer, et de la vie animée d'un désir de rencontrer l'autre. Alors là, on parle de liens ou amicaux, ou fraternels, ou avec une certaine tendresse, etc. Mais tout ça, c'est évidemment pas le même type de sentiment que l'amour, mais ça participe de la même dynamique. Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas vide. Après, évidemment, vous ne pouvez pas savoir ce que vous saurez donner à un homme. Encore faut-il qu'il y ait un homme en face de vous qui puisse vous plaire. D'où ma question, où est-ce que vous pouvez les rencontrer, ou le rencontrer, cet homme? Est-ce que vous êtes mis en marche pour le rencontrer? C'est-à-dire, est-ce que vous sortez avec des amis? Est-ce que vous allez à des fêtes? Est-ce que, je ne sais
Non,
pas,
honnêtement, non.
non. Est-ce que vous vous mettez sur des sites ou des choses comme ça pour voir s'il y a
Oui,
des
je
gens?
me suis mise sur un site, mais...
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Personne n'accroche ou c'est vous qui n'accrochez pas? Qu'est-ce qui se
Bon,
passe?
si... Pardon. Oui, j'étais sur un site, mais voilà, c'est des personnes... La dernière dialogue que j'ai eu, c'est un monsieur marié qui n'est pas jaloux et qui... Voilà.
Oui, donc là, vous avez le sentiment que ce sont plutôt des profits et d'opportunités et pas une envie de construire quelque chose. Vous cherchez autre chose. Donc là, effectivement, ce monsieur n'a qu'à passer son chemin, en effet. Mais
Exactement.
voilà, mais ce qui n'empêche pas de récidiver pour voir, puisqu'il y en a eu plusieurs, dont celui-là est le dernier. Mais et d'ailleurs, on peut dire qu'on comprend, mais que pour autant, on cherche autre chose soi-même, parce que vous n'êtes pas un petit gâteau qu'on mange. Donc, vous cherchez une relation où vous participez de la relation. Est-ce que vous...
Moi, mon souhait, oui, à l'heure actuelle, c'est voilà, avoir, comme je vous ai dit, parce que voilà, ça fait 8 ans que je parle à mes murs et voilà,
Oui,
j'ai envie
de parler à
d'autre
des...
chose.
Bien sûr, de parler à des vraies personnes qui, quitte à de temps en temps vous contredire, au moins échangent avec vous.
Exactement. Mais après, par rapport à ce que vous disiez, la relation au niveau des personnes de l'EHPAD, moi, c'est. Enfin, voilà. C'est des personnes, c'est pas, enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est du relationnel, c'est de l'amical, c'est de l'affection, c'est.
Tout à fait, j'entends bien. Bien, je ne suis pas en train de dire que vous allez chercher votre amoureux à l'EHPAD, hein, ce n'est pas de ça dont je parlais.
Heureusement.
Je vous dis juste que vous avez besoin de liens et que vous en avez la compétence, sinon vous ne vous fatigueriez pas, puisque là n'est pas votre fonction ou plus votre fonction actuellement, à aller voir les uns et les autres. Je disais simplement que vous avez besoin de liens et que vous avez la compétence au lien. Un lien amoureux est encore autre chose, bien sûr, mais vous êtes riche de cette compétence. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Les 36 heures d'EHPAD, ça s'efface pas d'un coup de balai.
Non, non, c'est sûr. Eh bien, on peut vous mettre dans un autre bureau. C'est pas pour autant que vous en perdez le lien avec les autres. Et c'est heureux, parce que vous auriez pu en profiter en disant, Oups, bon débarras, moi je vais m'occuper de mon petit job et puis je rentre chez moi. Non, on sent bien que vous avez
Eh bien,
besoin
vous
d'un.
savez que ça me rend inconsciemment triste.
Qu'on vous ait mis, qu'on vous ait,
Oui.
qu'on ait changé de. Et vous l'avez dit, ça?
Oui.
Et
Ma
qu'est-ce que.
cadre le sait.
Et alors, que répond-elle?
Mais du fait que j'ai eu des soucis de santé, donc je suis en poste à mi-temps thérapeutique.
Mais ça, c'est ponctuel ou c'est définitif, ce mi-temps thérapeutique? Parce que vous me parliez de cheville, une cheville, ça se répare. Donc, pourquoi être.
Donc j'ai un mi-temps thérapeutique pour un an.
Ah, c'est pour un an, d'accord.
Donc voilà.
Qui se termine quand? Parce que là, ça fait combien de temps que vous avez ce mi-temps?
Donc, mon temps finit le 2 novembre.
D'accord.
Et après, je verrai.
Vous verrez,
Puisque.
c'est-à-dire en fonction, c'est le médecin qui verra en fonction de votre compétence physique
Non,
ou c'est vous qui déciderez? Parce que
non,
vous.
non. C'est en fonction de ma pathologie.
C'est ça.
J'ai de gros soucis de santé, puisque voilà, ça fait 36 ans que je suis en EHPAD. Grâce à l'EHPAD, je me suis retrouvée à faire de l'hypertension. Donc, je vais voir. Pour l'instant, je suis en mi-temps thérapeutique et je verrai après si je reprends à temps plein dans quel poste on pourra me mettre. Mais je ne serai plus ASH plus en fonction d'être soignante. Voilà. Mais ça, c'est.
Ce qui est effectivement
Parce
pour.
qu'à la base, mon travail depuis des années, c'est ça.
Oui.
Agent de service hospitalier faisant fonction d'être soignante.
Et c'est d'ailleurs remarquable, hein, commencer à faire ça depuis l'âge de 23 ans, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'est. Ça demande évidemment beaucoup de constance, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'efforts. Et on peut comprendre que de temps en temps, le corps fatigue, le corps se blesse, le corps dit stop. Mais il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que votre métier. Hein. Il y a eu aussi quand même beaucoup d'histoires pas très confortables, même plutôt douloureuses. Donc, pour revenir sur ces applications sur lesquelles vous êtes aujourd'hui, ou cette application, est-ce que vous vous sentez l'âme persévérante ou vous vous sentez déprimé en ce moment et vous n'arrivez pas à trouver de l'intérêt dans la possibilité de chercher si l'un ou l'autre finirait par vous plaire?
Pour être honnête, honnêtement, je ne sais pas.
Est-ce que, parce que j'ai le sentiment que ça manque, enfin, que vous peinez à trouver la joie en vous, la joie dans le projet, même vous voulez avoir quelqu'un et à la fois il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas encore l'énergie et peut-être êtes-vous un peu déprimé, non? Qu'est-ce qu'en pense votre médecin? Est-ce que vous vous êtes exprimé là-dessus en disant que vous aviez peut-être pas trop le moral?
Mais mon médecin, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, le fait qu'on m'ait relayé aux visites, qu'on m'ait sorti dans le service, oui. Moi, j'ai dit à mon médecin, non, si ça perdure, je ne pourrais pas.
Donc, ça veut dire que vous changerez de métier?
Ou que vous, mais à 59 ans, je ne pense pas.
D'accord.
Mais voilà, moi, j'ai le contact physique avec les résidents. Même avec mon mi-temps thérapeutique, je les côtoyais, je les voyais. Là, je suis cantonnée à la porte d'entrée, faire rentrer les gens, leur faire remplir les papiers. Et voilà. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, personnellement, ça me... je trouve qu'on me rappelle ça. Mais bon, je pense que la direction ne le voit pas comme ça. Mais moi, personnellement, oui, je le vis comme ça.
Et vous l'avez dit que vous avez le sentiment d'être abaissé, d'être rétrogradé.
Oui, je l'ai dit à ma cadre. Mais oui.
Oui. Mais à la fois, vous me disiez, Patricia, que vous ne vous sentez pas, pour des raisons de santé, en compétence vous-même. C'est-à-dire que...
Non, physiquement, je ne pourrais plus faire fonction d'AS. Ça, c'est clair.
Donc, ce n'est pas qu'on vous relègue, c'est que votre corps ne vous permet plus de le faire. Et du coup, il y a une véritable impasse. Il y a d'un côté...
Mais l'impasse, avant qu'on me relègue aux visites,
oui.
Je faisais le goûter, je faisais beaucoup de choses où j'étais en contact avec eux.
Donc ça, c'est possible encore. Ça, physiquement, vous pouvez le faire.
Oui.
Oui, et ça, vous avez dit que vous souhaitiez le faire, parce que vous savez, dire je ne suis absolument pas bien et je vois que je suis en train de couler dans quelque chose de triste... de déprimer, ils n'ont aucun intérêt à voir quelqu'un qui finisse par être complètement déprimé puisqu'ils vont avoir des arrêts maladie. Donc dire que vous souhaitez une fonction qui vous laisse en contact avec les résidents pour garder votre joie de vivre malgré le fait que vous êtes encombré corporellement, en tout cas handicapé corporellement pour pouvoir faire ce que vous faisiez dans le passé, et que ce serait gagnant-gagnant et pour vous et pour l'EHPAD, que vous puissiez continuer une fonction plutôt que de vous retrouver en arrêt maladie et arrêt maladie derrière arrêt maladie parce que vous allez complètement sombrer dans la dépression.
Mais je crois que le système d'EHPAD, vous ne le connaissez pas trop, non.
Pardon ?
L'EHPAD entend ce que je dis, mais je n'ai pas de retour.
Oui. Il y a des représentants dans votre EHPAD, des représentants pour faire entendre les voix de ceux qui ne... ou pas, c'est une trop petite structure.
C'est pas une petite structure parce que on est relié à un centre hospitalier qui a racheté, enfin, qui a repris
oui, ça fait partie
tous les alentours.
Tous les alentours, tous les alentours, c'est ça.
Oui, mais tous les centres hospitaliers à 30 km à la ronde, puisque l'ARS à l'époque a décidé de faire ça.
Et au sein de l'EHPAD, est-ce qu'il y a ou de façon...
Non, les représentants syndicaux, honnêtement, au sein de l'EHPAD, non.
Et est-ce qu'il y a une psychologue?
Eh bien, figurez-vous que je l'ai vue il y a 2 mois.
Très bien.
Quand je lui ai dit que moi, faire le... Parce que, bon, entre-temps, il y a eu des changements au niveau des visites réglementées. Parce que moi, les visites réglementées, c'était, je recevais une personne et pendant 1 heure, je devais fliquer la personne parce que je me considérais comme un maton.
D'accord.
J'accueillais la personne, je l'accompagnais pendant une heure. Je suis restée pour qu'il n'y ait pas de gestes contact, les gestes barrières respectés, et ainsi de suite. Mmh. Et donc, moi, la psychologue, je lui dis, moi, attends, moi, ce boulot, non. Désolée, faire le menton, je ne peux pas.
Alors, est-ce qu'elle vous a proposé déjà des rendez-vous avec elle pour que vous puissiez justement vous exprimer? Parce que ce qui est très douloureux, c'est quand on est enfermé avec sa souffrance, ses colères, ses frustrations non exprimées. Donc déjà, est-ce qu'elle vous a proposé, est-ce qu'elle a la possibilité de la voir régulièrement? Pourquoi depuis 2 mois, vous avez eu un rendez-vous et vous n'y êtes pas retourné? Et est-ce qu'elle, elle peut se faire d'une manière ou d'une autre ambassadrice auprès de la partie ressources humaines ou de votre cadre pour alerter avant que vous ne sombriez, tout simplement? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en elle pour vous exprimer à nouveau avec elle, pour échanger avec elle régulièrement, puisque vous avez l'opportunité, dans le cadre de votre travail, d'avoir accès à quelqu'un dont c'est le métier, d'être disponible pour les résidents ou le personnel qui serait en souffrance?
Alors, quand j'ai vu la psychologue, j'en ai parlé. Mmh. Donc, son dialogue, c'est oui, je comprends très bien. Je vais faire remonter et j'attends encore toujours que ça remonte.
Et à la fois, est-ce que vous l'avez vu il y a 2 mois? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, Patricia, d'aller la voir en disant, écoute, je suis venue te voir il y a 2 mois. Tu me disais que faire
remonter. Cette personne intervient sur les pas de. Pas tous les jours. Elle
oui.
est.
Mais c'est pas tous les deux. Mais c'est pas tous les 6 mois non plus. Donc peut-être que il serait intéressant de lui sauter dessus à la prochaine occasion.
Ah ben ça, oui. Vu mon caractère, c'est sûr que quand je vais la revoir.
Alors j'ai pas dit sauter dessus pour l'agresser, mais en tout cas pour profiter de sa présence pour créer du lien.
Non, c'est mon expression qui a été mal interprétée. Oui. Mais c'est vrai que quand je vais la revoir, je vais lui dire.
Oui. Mais alors, il y a la revoir, c'est pas parce qu'elle va passer devant votre porte, il y a aussi la revendication de la voir. C'est-à-dire que ce que j'entends beaucoup dans votre discours, Patricia, c'est qu'il y a une volonté, il y a du désir, et en même temps, vous notez qu'il n'y a personne, vous notez que. Vous communiquez.
Non, j'ai l'impression que personne n'écoute.
Oui, c'est ça. J'entends bien ce que vous dites. Je l'entends. D'ailleurs, il y a des moments où je vous dis des choses et vous me dites non. Et puis ce que vous me dites derrière, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez vraiment le sentiment qu'on ne vous écoute pas. Alors que, et du coup, ça pose la question. Est-ce que réellement on ne m'écoute pas ou est-ce que je ne me fais pas suffisamment entendre? Est-ce que je ne revendique pas suffisamment? Parce que j'attends que l'autre voie que je suis en souffrance. Alors oui, bien sûr, on se dit tous, on se dit, l'autre va quand même se rendre compte. Il va bien se rendre compte que ça ne va pas. Il va bien se rendre compte que ça ne plaît pas. Il va bien se rendre compte que je ne souris plus. Il va bien se rendre compte que je suis fatiguée. Et là, quand je parle de ça, je parle de votre cadre. Je pourrais parler des enfants avec des parents avec les enfants, des femmes avec leurs maris, des maris avec leurs femmes. Vous voyez, c'est une histoire de la vie. Souvent, on se dit que l'autre va finir par se rendre compte que ça ne va pas. Mais nous sommes des êtres parlants, il faut qu'on le dise, parce qu'on ne peut pas attendre que l'autre s'en rende compte. Parce que l'autre, ou il ne s'en rend pas compte, parce qu'il est préoccupé par lui-même, ou parce qu'il n'a pas la capacité à avoir la bonne traduction, ou alors l'autre s'en est rendu compte, mais il ne sait pas très bien qu'en faire. Alors tant qu'on ne lui a pas dit, il fait comme s'il ne l'avait pas vu. Alors que quand on le dit, l'autre est obligé.
Ou que ça l'arrange qu'il ne le voit pas.
Oui, c'est ça. Ou alors que ça vous arrange à vous dites?
Non, que le ça l'arrange. Ça l'arrange.
Oui. Bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il il l'a vu, mais il ne saurait pas qu'en faire. Donc, il fait comme s'il l'avait
non,
pas vu.
Non, parce qu'il sait que voilà, Patricia est disponible.
C'est ça.
Que Patricia, voilà. Mm-hmm. Et encore ce soir, à ma cadre, parce que voilà, je n'étais pas censée faire les visites toute la semaine. Cette semaine, la jeune fille qui devait faire assumer les visites, n'était pas disponible, on n'a pas de nouvelles. Donc moi, je suis devant mon téléphone, puis on m'appelle à 2h15. Ah, la petite, elle n'est pas venue, il faut que tu viennes.
Mmh. Alors que normalement, vous étiez chez vous? Ou vous étiez à un autre poste?
J'étais à un autre poste.
Qui vous plaisait plus?
Mais différemment, oui.
D'accord. D'accord.
Donc ma cadre le sait. Je rends service à ma cadre parce que voilà, bon, je connais et voilà.
Vous connaissez de longue date et vous êtes fidèle à.
Non, je connais pas ma cadre spécialement de longue date, mais après voilà, je sais comment fonctionne le service et je me dis voilà, si au lieu de commencer à 16h, je commence à 15h ou 14h, mais voilà. Mais comme j'ai dit à ma cadre, moi être suspendu au téléphone. Donc on m'appelle en disant mais faut que tu viennes faire des visites parce que voilà il y a la petite elle vient pas.
Oui, vous n'êtes...
Je sais pas comment vous dire, à un moment donné c'est pesant quoi.
Bah oui, vous n'êtes pas un bouche-trou. Alors évidemment dans les entreprises, il faut bien comprendre, hein, on se rend service, on se dépanne, de toute façon il faut bien que ça roule. Il faut donc évidemment qu'il y a tout un processus voilà, qui n'est pas toujours très confortable, mais qui est la vie de chacun de nous à partir du moment où on fait marcher une entreprise qui d'ailleurs au passage
mais ça je l'entends très bien mais après à un moment donné je me dis il faut aussi que l'entreprise pas spécialement ma cadre mais ne serait-ce que la direction qui comprenne que voilà vous avez mis le doigt dessus le bouche-trou
Mais voilà, mais c'est, et donc pour ne pas être un bouche-trou, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir revendiquer gentiment pour être entendu, parce que plus on énerve les gens, moins on obtient en réalité, parce que ça les agresse ou parce qu'ils veulent affirmer leur pouvoir. Donc c'est toujours une relation pour pouvoir amener à une possible résolution, c'est toujours dans le respect de l'autre, mais dans l'affirmation de soi, parce que c'est aussi la nécessité du respect de soi. Donc je crois que là pour l'instant, vous m'avez parlé de deux sujets, hein, qui sont deux sujets importants,
oui.
Patricia. Il y a le sujet de savoir est-ce que je pourrais rencontrer un homme, et puis tout d'un coup vous me parlez du dernier échange avec un homme sur un site et qui est un homme marié mais qui n'est pas jaloux, enfin il n'est pas jaloux, il n'a pas à être jaloux puisqu'il n'est pas il est marié, donc c'est pas lui, c'est sa femme qui pourrait ne pas être jalouse, mais en l'occurrence, et qui du coup se dit qu'il pourrait bien... faire avec vous en plus qui permettrait de combler ce qui manque, à nouveau bouche-trou. Et là, vous venez de me parler du cadre professionnel où vous avez le sentiment d'être bouche-trou. En fait, ça ne veut pas dire que les gens vous traitent en bouche-trou, mais vous, vous avez le sentiment d'être un bouche-trou, c'est-à-dire quantité négligeable. Or, il vous appartient là, c'est important de pouvoir dire non, pas à cette condition. Là, je parle pour les hommes.
Non, oui.
Tout simple. Vous avez un petit verre d'eau à côté de vous ?
Oui.
Prenez le temps de boire un peu si vous voulez.
Je vous écoute.
Oui. Oui, donc je disais, c'est important que vous vous exprimiez. Moins on s'exprime, plus quand on s'exprime en désordre ou avec colère. Plus on s'exprime simplement, facilement, en disant, là, je suis en train, au secours, je suis en train de souffrir trop, de dépérir, de me faire du mal, ne me laissez pas dans cette situation. Surtout qu'il y a d'autres postes possibles malgré ma situation physique. Et pour un homme, quand vous communiquez avec des hommes, n'arrêtez pas de communiquer, c'est assez agréable, même avant le quelconque passage à l'acte, même ne se rencontrer, échanger deux, trois mots avec l'un, avec l'autre, faire de la conversation pour avoir une vie sociale, tout simplement, même si c'est un peu particulier parce que ce n'est que par les réseaux, eh bien ça vous permet justement de vous sentir existante dans la société. Vous êtes toujours là, Patricia, ou vous êtes en train
oui,
de vous
oui.
étouffer vous avez les bronches bien prises.
Désolée.
Mais c'est moi qui suis désolée pour vous.
Non, j'ai fait un trajet en train avec de la clim pendant des allers-retours et
ça vous a pris sur les branches.
Oui. Oui. Même au travail, on m'a fait faire le test parce que voilà.
En tout cas, voilà, moi c'est pour clore un peu ce qu'on est en train de se dire ce soir, je crois que l'important là, c'est que vous soyez vigilante à prendre soin de vous. D'ailleurs, par exemple, là, parce que vous avez cette mauvaise toux, de vous faire peut-être un thé, une tisane, un truc chaud pour câliner votre, vos cordes vocales, réchauffez un peu vos bronches, etc. Faites-vous quelque chose de doux, une bouillotte. C'est pas parce qu'on n'est pas qu'on est en été qu'on peut pas être à la recherche de chaleur. Ça, c'est une première chose. Et puis, se faire du bien, c'est ne pas se laisser faire. C'est dire combien on nous bouscule pour que justement on puisse entendre, faire entendre et dire aussi j'ai l'impression que tu ne veux pas entendre et je comprends, tu ne saurais peut-être pas quoi en faire, mais tu sauras encore moins quoi en faire si demain je ne vais pas bien du tout et que je ne peux plus venir. Donc voilà, il faut pouvoir dire que, il faut que l'autre entende que ce n'est pas simplement pour vous sauver vous, c'est aussi pour se sauver et avoir une équipe qui fonctionne. Voilà ma chère Patricia, il me faut vous quitter à présent. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et prenez grand soin de vous. Promis ?
Merci.
Vous vous donnerez de la valeur, n'est-ce pas ? Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir, Patricia.
Au revoir.